Vous écoutez la radio Capi, une voix pour tous. Nous allons aborder notre thème tout à l'heure, parler des mécanismes pour accéder au crédit carbone. Restez branchés sur la fréquence de la paix. Vous savez, plusieurs pays qui possèdent des forêts sollicitent aux pays industrialisés le crédit carbone. Alors c'est des fonds. Alors ces fonds constituent une compensation financière que ces pays pollueurs payent à cause de leurs usines, n'est-ce pas, qui polluent l'environnement. Et en payant les crédits carbone, ces pays achètent les droits des pollués parce qu'ils ont des quotas, ne pouvant pas dépasser au cours d'une période donnée. Alors, quels sont les mécanismes ou les préalables à remplir pour accéder au crédit carbone? Pour en parler aujourd'hui, nous allons recevoir Jean-Détieu Miningou. Il est environnementaliste. Nous allons l'accueillir dans quelques instants.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Jean-Dédieu Miningou, bonjour.
Bonjour aujourd'hui.
Alors, dites-nous, c'est quoi le crédit carbone?
Bon, le crédit carbone, c'est comme beaucoup de gens ensemble le disent, c'est pas l'argent au vrai sens. Le crédit carbone correspond à une tonne de CO2 émise ou séquestrée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous avez par exemple votre forêt. Et que la forêt séquestre du carbone. On évalue la quantité de CO2 séquestrée. Si ça donne une tonne, on appelle ça crédit carbone. Il y a également dans le secteur énergétique, on parle également de crédit carbone. Si à l'époque on utilisait les énergies fossiles et qu'on remplace l'approvisionnement en énergie fossile par l'énergie verte, si la quantité de CO2 évitée correspond à une tonne, on parle d'un crédit carbone. Voilà en termes très simples, en termes très clairs, ce qu'on entend par crédit carbone. Donc le crédit carbone, ce n'est pas l'argent, mais c'est un produit qu'il faut mettre sur le marché pour vendre. Et il faut trouver les acheteurs pour que, c'est comme on vend les maïs sur le marché, il faut trouver un acheteur. Voilà ce que je peux dire en termes très simples sur ce qu'on peut parler sur le crédit carbone.
Voilà, vous avez dit que c'est la quantité de CO2 émise qui correspond à combien?
C'est la quantité de CO2, soit qui est séquestrée, qui est gardée soit par les arbres, soit évitée lorsqu'on remplace par exemple les énergies fossiles par les énergies renouvelables. Si cette quantité-là correspond à une tonne de CO2, on appelle ça crédit carbone. Donc le crédit carbone, on peut dire en termes très simples, c'est 1000 kilos, correspond à 1000 kilos de CO2. Voilà, très simple.
Voilà, 1000 kilos correspond
à... CO2.
1000 kilos de CO2.
CO2 correspond à un crédit carbone.
Voilà. Donc, vous avez dit, c'est comme de la marchandise qu'on va vendre pour avoir de l'argent.
Exact. Je dis, le crédit carbone, ce n'est pas l'argent. C'est pas comme les gens disent, non, le pays n'a pas accès au crédit carbone. Non, le pays n'a pas accès au crédit. Le crédit carbone, ce n'est pas l'argent. Le pays n'a pas accès aux mécanismes financiers ayant trait au crédit carbone. Donc, le crédit carbone, nous avons beaucoup de forêts qui séquestrent le carbone. Mm-hmm. Donc, le produit est là. Mais il faut avoir des mécanismes pour permettre à ce que vous puissiez mettre votre produit sur le marché international pour que les gens les achètent. Parce que dans le cadre du protocole de Kyoto, il y a eu beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place. Vous avez, par exemple, le MDP, le mécanisme pour le développement propre. Les pays ayant pris des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qu'on appelle les pays industrialisés, devaient réduire leurs émissions au moins de 5%. C'est la période qui va de 1990 jusqu'à 2012. Et comme beaucoup de pays n'ont pas de moyens au niveau de leurs États de respecter ces engagements, ces pays devraient financer des projets qui devraient permettre de limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et à travers ça, les pays qui reçoivent les produits devraient prouver qu'il y a les réductions où on a évité les émissions de gaz à effet de serre. Avec cette quantité, vous mettez ça sur le marché et l'entreprise ou l'État qui achète donne l'argent par rapport à ça. Parce que le prix varie d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, le marché qui est très bien connu, c'est le marché volontaire, où les gens, de façon individuelle, achètent les crédits carbone à travers les États, à travers les entreprises qui essayent de se lancer dans cette voie-là.
Oui, Jean des Dieux. Voilà, mais certains pensent que, par exemple, les pays pollueurs, les pays industrialisés polluent l'environnement et de ce fait, ils doivent payer aux autres pays qui ont des réserves, des forêts, de l'argent pour entretenir leurs forêts.
Oui, je dis, c'est pourquoi on parle de la responsabilité historique des États industrialisés. On ne peut pas dire que les pays qui ne sont pas industrialisés ne contribuent pas aux émissions de gaz à effet de serre parce qu'il n'y a aucun peuple, il n'y a aucun individu à travers le monde qui lui dit que ces activités n'ont pas d'impact sur l'environnement. Nous tous, nous contribuons aux émissions de gaz à effet de serre. Mais le plus important, c'est qu'à quel niveau, les degrés sont différents. C'est pourquoi on parle de la responsabilité commune et différenciée. C'est-à-dire nous sommes tous responsables du changement climatique, mais à des degrés différents. C'est pourquoi les pays industrialisés ont une responsabilité commune de beaucoup travailler à ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques. C'est comme ça que ces pays doivent investir dans des projets de développement propre à travers les États qui n'ont pas pris des engagements en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est à travers ces mécanismes. Vous avez par exemple les MDP. Et là, c'est très important. Je dis, les secteurs qui peuvent bénéficier aujourd'hui les mécanismes financiers en rapport avec les crédits carbone, vous avez les secteurs énergétiques. Et là, ils se disent que la République démocratique du Congo est très bien située sur le plan international pour obtenir des financements internationaux en rapport avec les crédits carbone. Parce que déjà, à partir du barrage Sine, si nous envoyons notre énergie au niveau des industries en Afrique du Sud qui utilisent les énergies fossiles, on peut évaluer la quantité et des COD qui est évité à partir de cette activité-là. Et là, dans ces conditions, les pays peuvent obtenir des financements en matière de crédit carbone. Il est également pour le barrage de Kakobola à Kipi, ça peut bénéficier également des crédits carbone à travers tout cela. Mais tout ça, il faut un mécanisme au niveau national qui permet de certifier les réductions des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça qu'on appelle les unités certifiées de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut un mécanisme au niveau national. Je ne sais pas si la République démocratique du Congo est à quel niveau par rapport à ces points-là.
Oui, voilà. D'après certaines informations reçues, il y a certains pays africains qui ont déjà bénéficié des fonds liés au crédit carbone. Alors, quels sont les préalables aujourd'hui? Vous avez parlé du barrage d'Inga, des Kakobola, voilà, qu'on peut mettre, utiliser pour distribuer le courant et obtenir le crédit carbone. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la République démocratique du Congo aujourd'hui pour que le pays soit éligible et obtienne des fonds liés à ces crédits carbone?
Oui, je dis, sans toutefois entrer dans des considérations d'ordre général, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. D'abord, au niveau national, il faut qu'il y ait des politiques nationales viables en matière d'environnement. Donc, pas des trucs où on élabore des politiques et le lendemain, on met ça dans les tiroirs et puis on s'occupe de tout ça. Donc, ça, c'est le premier élément. Et ces politiques doivent être accompagnées de ce qu'on appelle la bonne gouvernance au niveau national. Parce que les financements là qu'on donne, en rapport avec la réduction des émissions de gaz à effet, ce n'est pas de l'argent remboursable aujourd'hui. Donc, mais il faut que cet argent puisse servir à quelque chose sur le terrain. Pas que les gens donnent l'argent, par exemple, en rapport avec le mécanisme RED, et le lendemain, l'argent se retrouve dans la construction des hôtels, dans la construction des autres. Cet argent devrait servir surtout pour les communautés riveraines de la forêt et développer des projets qui les empêchent à pouvoir détruire la forêt. Ça, c'est très important. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je dis, il faut qu'il y ait des programmes viables. Voilà, nous voulons faire un programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre en République démocratique du Congo, les mécanismes par exemple. Il faut que ce programme soit très clair et qu'il soit très bien exécuté. De ces fois, on met des programmes et puis finalement, l'application du programme sur le terrain pose des problèmes, on organise des ateliers, à la fin, il n'y a plus rien et chacun s'occupe de tout. Donc, il y a autant d'éléments qu'il faut mettre en jeu pour que les pays accèdent à ce qu'on appelle les mécanismes financiers et en rapport avec les carbones. Donc voilà ce que je pouvais dire en rapport avec la question de l'environnement.
Bien, donc il faut une politique nationale d'environnement, un programme viable, ainsi le pays pourra être éligible à accéder au financement, au mécanisme de financement lié au crédit carbone. Nous avons un premier auditeur en ligne, Ogi Bendelo, depuis Kikwit. Vous voulez également participer à cette émission? Appelez-nous au 081 890 63 94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Quels sont les mécanismes pour accéder au crédit carbone? Ogi Bendelo, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à notre invité, bonjour à tous ceux qui sont présentement branchés.
On vous écoute.
Merci Jody de m'avoir accordé la parole. je viens auprès de notre invité avec comme question.
Oui. Ogui, on vous écoute. Ogui, vous êtes toujours en ligne? Voilà, je crois qu'il y a un petit problème au niveau de la liaison téléphonique. Ogui n'est plus en ligne. Bon, il va peut-être nous rappeler. Il y a sûrement des petits soucis aujourd'hui. Nous parlons des mécanismes pour accéder au crédit carbone avec Jean Desdieux Minengou, spécialiste en environnement. Alors, Jean Desdieux, vous dites qu'il faut une politique nationale d'environnement. Alors, comment cela doit se faire concrètement, d'après vous?
Bon, je dis... Quand vous lisez la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, quand vous lisez le protocole de Kyoto, quand vous lisez tous les engagements internationaux, il a été demandé à chaque État de développer des politiques fiables à ce qui concerne la lutte contre le changement. C'est à travers ces politiques-là que les pays développent le programme qui lui permet d'avoir accès au crédit carbone, donc qui lui permet d'avoir accès aux mécanismes financiers en rapport avec le carbone. Lorsque ces politiques font défaut dans beaucoup d'États, finalement, c'est pourquoi vous voyez les pays comme le Brésil à bénéficier beaucoup de financements à ce qui concerne le changement climatique. Mais le Congo, qui se trouve peut-être dans une bonne position aussi également par rapport à la République démocratique du Congo, à ce qui concerne par exemple les mécanismes pour le développement propre, nous n'avons pas assez de projets ici. Il existe déjà des projets RED au niveau de la forêt d'Amazonie, déjà au niveau du Brésil, et ces projets servent finalement aux communautés locales. Mais ici, il faut beaucoup d'efforts au niveau politique pour que déjà des projets, par rapport à ce qui concerne par exemple le mécanisme RES, déjà des projets qui seront développés puissent réellement servir aux communautés locales. Parce que finalement, la communauté internationale peut mettre des moyens dans le cadre de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, et les projets développés finalement prennent d'autres directions et les communautés locales ne trouvent plus. Et ces gens-là seront toujours obligés d'aller pour d'autres choses. Et je dis, il faut faire très attention. Pour obtenir des financements dans le secteur forestier carbone, ça pose problème. Pourquoi? À cause de ce qu'on appelle la volatilité des crédits. C'est-à-dire, vous avez développé un projet pour pouvoir protéger en termes de pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Le lendemain, au lieu que la forêt puisse rester dans la ligne de la conservation, vous allez apprendre que non, il y a une entreprise qu'on a donné un contrat ou je ne sais pas quoi, et puis finalement, ils commencent à couper, ou les populations continuent à couper la forêt ou à détruire la forêt parce qu'elle n'a pas trouvé intérêt par rapport au projet que. Et là, c'est très difficile de pouvoir obtenir des financements dans le secteur forestier en rapport avec le carbone à cause de ce qu'on appelle la volatilité des crédits. Mais le secteur qui est très favorable pour la République démocratique, c'est le secteur énergétique. Déjà, avec les INGA qui existent, avec les INGA 3 et les grands INGA qui vont encore se construire, je crois que la République démocratique du Congo, s'il y a des bonnes politiques au niveau national, pouvait bénéficier des financements en rapport avec les carbones, et ça peut permettre le développement socio-économique de la République démocratique. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui en rapport avec la question que vous venez de me poser.
Bien, deux auditeurs en ligne, Patrick et Akindou, patient Paul à Kinshasa. Patrick, bonjour.
Bonjour, monsieur Dieu, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour. Oui, j'ai des questions à poser à l'invité qui sont les suivantes.
Oui.
La première est celle-ci. J'aimerais savoir le système de la forestation et la réforestation.
Pardon, c'est quoi la question?
Ma deuxième question est celle-ci. Vous dites?
Oui, allez-y. Je vous écoute, Patrick.
La deuxième question est, j'attends parler les gens du Fonds forestier national. En CFFN. Alors...
Alors, oui, Patrick, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça, Patrick. C'est pas ça le sujet du jour. Nous parlons aujourd'hui des mécanismes pour accéder au crédit carbone. Donc, vos questions ne concernent pas l'émission de ces jours. Merci d'avoir appelé. Peut-être, on va revenir sur ça prochainement. Patient Paul, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour. Je dis donc à l'invité.
Alors, nous parlons de l'accès au crédit, les mécanismes d'accès au crédit carbone. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces thèmes?
Oui, peut-être donc j'ai une question de curiosité à demander à l'invité. Hein.
Oui.
Oui, donc j'aimerais savoir donc pourquoi donc la Banque mondiale interdit les propriétés donc de la forêt quant à l'exploitation de celle-ci, alors que c'est eux qui en bénéficient. Donc ils parviennent même à débloquer une bagatelle somme pour sa conservation. Et nous, en nous privant de son exploitation, qu'est-ce que nous population, nous gagnons et comment paye-t-on donc à notre à notre gouvernement pour éliminer donc le taux de chômage. C'est ça un peu donc ma seule question que j'avais à poser.
D'accord, Jean de Dieu Minengo.
Oui, en tout cas, il a posé une question très fondamentale. La Banque mondiale nous interdit, ou ça ne sait pas si interdit, il a dit la Banque mondiale nous interdit de pouvoir détruire la forêt alors que c'est elle qui bénéficie. Et en même temps, la Banque mondiale met des moyens à la disposition des États pour pouvoir conserver, mais finalement, à la fin, les populations ne gagnent rien. Donc, en principe, la Banque mondiale n'a pas qualité de dire au peuple congolais de ne pas couper la forêt. Mais nous devons savoir que la forêt, elle joue un rôle important pour notre existence en tant que peuple, en tant qu'État. Cette forêt, ça ne sert pas seulement à la communauté internationale, mais ça nous sert. Aujourd'hui, les impacts du changement climatique que nous sommes en train de décrire. Mais nous sommes les premières victimes de ces impacts. Donc, nous avons intérêt, nous, en tant que peuple, en tant qu'État, de participer aux efforts des autres de la communauté internationale pour lutter contre ça. Alors, finalement, la Banque mondiale met de l'argent pour conserver la forêt. Finalement, les peuples ne trouvent rien. Oui, c'est pourquoi nous avions dit qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la bonne gouvernance. L'argent qu'on met pour conserver les forêts, dans le cadre, par exemple, du mécanisme RED, il faut que cet argent puisse, qu'on développe les projets qui permettent à la population de ne plus détruire la forêt. Donc, ce que vous pouvez tirer comme bénéfice au niveau des forêts, vous les tirez finalement dans les projets qui sont développés. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, on ne peut pas demander au peuple de ne pas développer la forêt et puis de ne pas détruire la forêt, et puis en même temps, on ne fait rien. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'États ont donné des moyens à la Banque mondiale pour qu'elle participe à beaucoup de projets qui permettent de maintenir la forêt ou qui permettent de lutter contre les changements climatiques. Mais là, ce n'est pas la faute à la Banque mondiale, c'est notre faute, c'est la faute à ceux qui gèrent les projets. Il faut que ce genre de projets, quand ils sont développés, puissent réellement servir aux communautés locales parce que ça leur permet de réduire leur empreinte sur l'écosystème forestier. Voilà ce que je peux dire en rapport avec la question que notre ami vient de poser.
Oui. Alors, Jean Dédieu, on peut dire que le seul domaine que la RDC peut développer, vous avez dit, c'est le domaine énergétique pour être éligible au financement lié au mécanisme de crédit carbone.
Non, je dis le secteur le plus facile, hein, pas mais le secteur forestier, il est éligible, mais également le secteur des déchets, il est éligible au crédit carbone. Mmh. Alors, mais ce qu'il faut dire, c'est que le secteur énergétique, il est très facile, hein, pour dire que voilà, nous avions réduit les émissions de gaz à effet de serre d'autant, c'est bon. Et puis ici, il n'y a pas de problème de volatilité des crédits. Mais dans les secteurs forestiers, il y a un problème de volatilité. C'est ça qu'on appelle les changements d'utilisation de la terre. Voilà, une forêt qui était destinée à la conservation, eh bien, s'il n'y a pas une bonne gouvernance, s'il n'y a pas des lois qui sont très bien appliquées, eh bien, cette forêt peut se trouver demain dans une concession forestière et les gens commencent à couper. Donc, les moyens qu'on vous a donnés pour finalement ne vont rien servir. Tous les secteurs sont éligibles au crédit carbone. Vous avez le secteur forestier, vous avez le secteur énergétique et le secteur des déchets en République démocratique du Congo. Donc, ça peut nous permettre, mais ça dépend de notre pragmatisme, ça dépend de notre manière de pouvoir faire le management au niveau international pour que nous puissions avoir accès à tous ces mécanismes financiers-là. Mais le secteur énergétique, à mon avis, je pense qu'il est beaucoup plus facile. D'ailleurs, si vous lisez le nombre de projets qui ont bénéficié des financements internationaux, ce sont des projets en rapport avec l'énergie, parce que c'est beaucoup plus facile que le secteur. Mais le secteur forestier, il est très important parce que nous avons un grand massif forestier en République démocratique du Congo. Avec des fonds politiques, nous pouvons gagner des millions, voire même des milliards dans le cadre du mécanisme REC. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui.
Voilà. Quels sont les mécanismes pour accéder au crédit, au financement au crédit à carbone? Jean Dédieu, vous avez dit tout à l'heure que le crédit carbone, ce n'est pas d'abord l'argent. Donc, c'est un produit qu'on met sur le marché. Vous avez dit que 1000 kilos de COD séquestrés correspond à une tonne, voilà. Une tonne de crédit carbone.
Oui, je reviens pour dire qu'un crédit carbone correspond à une tonne de COD séquestrée ou évitée. C'est ça qu'on appelle crédit carbone. Donc, ce n'est pas de l'argent, mais c'est un produit qui peut vendre sur le marché.
Un produit qu'on vend sur le marché et on peut en retour avoir des financements pour gérer des produits et gérer des projets de protection de l'environnement. Et vous avez dit notamment il faut développer des programmes pour les populations autochtones, des programmes pour empêcher les autochtones de ne pas continuer à faire pression sur la forêt. Alors quel genre de programmes on peut développer pour les autochtones pour réduire cette pression?
Oui, je dis, vous êtes par exemple au niveau du parc national de Virunga, vous avez les populations qui sont à côté du parc. Les populations vont au niveau du parc chercher du bois, du bois de chauffe, ils fabriquent des charbons de bois. Mais les projets à développer d'abord en rapport avec cette question, c'est les projets énergétiques. Les gens vont là pour chercher. On peut développer des projets énergétique avec les solaires, avec, avec le vent, soit avec le gaz méthane qui devient extrêmement dangereux au niveau de la technique. Donc ce sont ces genres de projets qu'il faut développer. Si au niveau de la forêt, les populations vont chaque fois chercher du système, il faut développer les projets d'élevage pour empêcher que la population aille encore au niveau de la rivière, au niveau du site, vous avez des dans la conservation, pour que les gens aillent chercher du système, mais ils peuvent trouver de la viande à partir des projets d'élevage que vous avez développés avec les financements que vous aviez reçus. Donc voilà, c'est déjà des projets qui se développent, mais qui sont nombreux, ça dépend des besoins de la population, ça dépend des raisons qui font que la population aille au niveau de la forêt, pour pouvoir chercher ce qu'ils ont finalement. Voilà ce que je veux dire.
Voilà, ce sont là les projets. Alors, à part ces genres de projets en faveur des populations qui vivent de la forêt, quels sont les autres programmes qu'on peut mettre en œuvre pour être éligible?
Oui, je dis, bon, en fait, lorsque vous pouvez, c'est pas de l'eau à boire, comme on l'a dit là, et voilà, et on peut avoir un financement au niveau international en rapport avec les crédits carbone. C'est pas facile, hein, c'est pas facile à faire. Donc, il nous faut d'abord au départ, vous devez prouver que votre projet a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Mais déjà, Jean Dédieu nous a...
permet de séquestrer les gaz à effet de serre.
Oui, Jean Dédieu.
C'est là où il faut partir dans ce qu'on appelle la définition des scénarios de référence. Quelle était la situation de départ avant que votre projet puisse prendre naissance? Oui, Jody.
Oui, mais déjà, nous avons une très très grande forêt qui est le deuxième poumon et qui sécresse évidemment beaucoup de COD.
Oui. Oui, je dis, comme je l'ai dit, pour la forêt, il y a un mécanisme très important pour bénéficier des financements, et c'est le mécanisme REST. Et je crois que d'ici 2016, la République démocratique du Congo pourra développer énormément beaucoup de projets dans ce sens-là. En fait, ce n'est pas toute la forêt qui veut dire, parce qu'il y a la forêt qui doit faire partie du mécanisme REST, c'est une forêt qui doit être dédiée à la conservation, pas une forêt où les gens vont, les gens vont aller couper du bois pour faire ceci. Non, c'est une forêt qui sera dédiée à la conservation. Et là, je suis parfaitement d'accord avec vous que cette forêt, une bonne partie de la forêt congolaise, peut bénéficier des financements dans le cadre du mécanisme REST, et ça c'est très important. Mais là, c'est à vous de définir les politiques. Quels sont les espaces qui doivent bénéficier de cette aide? Et là, les bailleurs qui vous donnent l'argent, ils ont peur de ce que j'ai déjà dit, ce qu'on appelle la volatilité des crédits. Donc, si ces genres de craintes ne sont pas éludées, beaucoup de gens vont dire, mais vous allez donner l'argent et le lendemain, cette forêt va servir à autre chose, etc. Donc, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui.
Bien, et quels sont les mécanismes pour accéder au crédit carbone? On en parle aujourd'hui. Avec Jean Miningou, on nous fait signe que Jean-Robert Bouanko est expert en environnement et il vient de nous rejoindre. On va le retrouver tout à l'heure et nous allons accueillir Daniel qui nous appelle des Kananga dans la province du Kasaï occidental.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent. Nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, quels sont les mécanismes pour accéder au crédit carbone? Nous avons en ligne Daniel de Kananga. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Daniel.
Oui, moi j'avais une petite préoccupation à demander à l'invité.
Oui.
L'invité nous a un peu dit que le crédit carbone, bon, ça ressemble à une marchandise qu'on doit mettre sur le marché.
Oui.
Alors, j'aimerais demander à l'invité de me donner un peu l'importance, ou soit l'impact du crédit carbone au développement humain.
L'impact du crédit carbone au développement humain, Jean?
Oui, oui.
D'accord.
C'est ce que j'aimerais demander. Alors... Et je ne sais pas si le crédit carbone provient d'où. Si ça provient de la forêt, nous trouvons que dans notre milieu comme notre milieu rural des Kananga, nous sommes en train de voir les cultivateurs couper la forêt. Alors quand on est en train de couper la forêt, on est en train de chercher un peu à créer des champs pour un peu planter les choses à manger pour quand même. Et c'est là, je ne sais pas, c'est une influence ou en tout cas c'est très bon, couper vraiment la forêt. Il me précise un peu ça.
D'accord, Jean Dédieu Miningou.
Je n'ai pas bien compris l'essence de sa question. Donc, il dit quelle est l'importance du crédit carbone.
Il dit, vous avez dit, c'est comme le crédit carbone, c'est comme une marchandise qu'on place sur les marchés. Et en retour, si on arrive à bien vendre, on a de l'argent. Alors, il veut savoir quel est l'impact de cela sur le développement humain.
Oui, bon, l'impact, c'est à vous de définir l'impact sur le développement humain. Donc, pour nous, le crédit carbone, c'est tout ce qu'il y a comme quantité de et qu'on évite ou que c'est par un système mis en place. Alors, quel est l'impact? L'impact, c'est d'aller vers le développement. Parce qu'aujourd'hui, si on laisse l'humanité aller dans les sens où les activités sont en train de se développer sans tenir compte de l'environnement, eh bien, nous allons disparaître. Il dit, voilà, la population, les gens sont en train de couper la forêt pour faire la culture, mais c'est tout à fait normal. Il doit faire ça pour que nous en faire. Mais il nous appartient, nous, à dire, et il y a beaucoup de systèmes de production aujourd'hui qui permettent de lutter également contre les changements climatiques. Donc, l'agroforesterie, c'est des systèmes pour l'agriculture de conservation, c'est des systèmes de production qui peuvent même être éligibles au crédit carbone aujourd'hui si les choses sont bien organisées. L'agroforesterie, l'agriculture de conservation, c'est éligible. Donc, en même temps que les gens produisent de la nourriture, en même temps qu'ils puissent profiter de financement. Et en rapport avec le carbone. Donc, tout ça, ça permet le développement humain, le développement durable. Les systèmes de développement que nous avions adoptés il y a 5 ans, c'est un système qui n'a pas réglé aucun problème, que ce soit le problème de la sécurité alimentaire, que ce soit le problème du développement humain au vrai sens du terme. Les gens sont très pauvres à travers l'humanité, donc il est tout à fait normal que nous puissions repenser notre manière d'agir, notre manière de consommer. Et notre manière de produire, ça permet à l'humanité d'aller dans le bon sens. Aujourd'hui, il y a énormément beaucoup de problèmes. Il y a le lac Tchad qui va disparaître. Il y a la rivière Ubangi qui connaît des problèmes sérieux d'approvisionnement en eau à cause de la déforestation. Donc, les problèmes nous attendent. Et si nous ne prenons pas les choses avec beaucoup plus d'efficacité, ça va nous coûter très cher.
Voilà. Jean Dédio Minengou, expert en environnement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons accueillir un autre invité qui vient de nous rejoindre, Jean-Robert Bangoy. Avec vous, on s'arrête là. Merci et à la prochaine. Bien. Nous continuons cette émission. Nous parlons des mécanismes pour accéder au crédit carbone. Jean-Robert Bangoy, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes expert en environnement. On a appris que la RDC pourra bénéficier du crédit carbone grâce au projet ERA Congo dans le Maïndombe. Alors, comment ça va se passer? Expliquez-nous. On voudrait en savoir un peu plus.
Je vais d'abord rectifier un peu. En fait, il y a un programme du gouvernement qui s'appelle le programme de réduction des émissions dans le district de Maïndombe, enfin l'ancien district de Maïndombe ou la future province de Maïndombe. C'est un programme du gouvernement et tous les projets qui se trouvent, tous les acteurs qui vont travailler dans le cadre de la réduction des émissions pourront bénéficier de ces financements. Nous avons été à Bruxelles. Et nous avons pu négocier et la RDC est parmi les 5 pays qui sont actuellement dans ce qu'on appelle le pipeline. Chaque pays va être éligible pour un financement de 60 millions de dollars dans les 5 prochaines années. Et donc ils pourront vendre les émissions évitées dans le cadre de ce programme. Nous avons calculé le niveau de référence provisoirement à presque 29 millions de tonnes. Si vous prenez un prix moyen que la Banque mondiale va probablement mettre de 5 dollars la tonne, donc vous voyez à quel niveau. Donc, mais la banque mondiale ne pourra acheter que jusqu'à concurrence des 60 millions dont je viens de dire. Mais les autres marchés sont ouverts, donc les autres marchés vont le faire. Bon, évidemment, nous avons un projet. Le projet ERA dont vous avez fait référence, qui fait partie de ce programme-là. Comme nous avons dit que dans le design, on a dit que les petits producteurs vendent d'abord, je crois que nous, possiblement, ne vendrons pas nos crédits à la Banque mondiale parce que les petits producteurs voudront d'abord récupérer les fonds qui sont disponibles à la Banque mondiale. Nous irons dans d'autres marchés. Nous sommes déjà dans le marché volontaire. Les communautés dans le Maïndombe sont déjà en train de bénéficier des actions, des activités du projet ERA.
Voilà. Vous allez nous parler de ce projet tout à l'heure. Le temps d'accueillir Rigan qui nous appelle depuis Siro, en province orientale. Rigan, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Regan.
Oui, j'ai une petite question de demander à notre invité du jour par rapport à l'impact socio-économique des crédits carbone.
Mm-hmm.
Oui,
bon.
C'est tout.
Allez-y.
Oui, disons que le mécanisme RED, d'une manière générale, a été mis en place pour permettre à ce que ceux qui ont des forêts et qui peuvent éviter la déforestation puissent bénéficier des financements de ceux qui polluent. C'est ça un peu, c'est juste un petit mécanisme d'échange et on calcule maintenant les crédits suivant les techniques d'évitement. Alors, le plus important est que dans les mécanismes REG, il est absolument prévu que les communautés puissent bénéficier des actions de financement qui concernent l'évitement du dégagement des gaz à effet de serre. Alors, nous sommes les seuls projets en Afrique qui a pu bénéficier de la validation. Donc, nous avons un projet au Kenya qui a été validé, un projet en RDC.
Mmh. Le projet ERA.
Oui,
le projet. Qui veut dire quoi, ERA?
Ecosystem Restoration Associate.
En français, s'il faut traduire, ça veut dire.
C'est l'association pour la restauration des écosystèmes.
Voilà, et ce projet va bénéficier du crédit carbone.
Nous en avons déjà. Donc, nous avons fait valider en 2012 2 500 000 tonnes, 2012. Mmh. Et le problème, c'est le marché. Bon, le marché est difficile, mais dans notre arrangement, la communauté locale a un pourcentage. Le gouvernement partage les bénéfices à 50% de 50% avec nous. Donc, et tout cela, il est prévu, par exemple, dans le cadre de notre projet, la construction pratiquement d'une école dans chaque village.
Alors, Jean-Robert, un instant, comment vous arrivez à quantifier, à calculer la quantité de COD séquestrée pour avoir le crédit?
Oui, calculer la quantité de COD séquestrée n'est pas très difficile parce que, bon, vous savez que... il y a une quantité de COD qui se trouve dans un arbre. Il suffit de mesurer le diamètre de l'arbre et on établit des équations, ce qu'on appelle des équations allométriques, qui permettent de calculer, d'obtenir le tonnage à partir du diamètre ou à partir du diamètre et de la hauteur. Donc on est encore en train de travailler sur ça parce qu'il n'y a pas de bonnes équations.
C'est à l'aide de quels appareils qu'on arrive à faire ces calculs?
Non, les mesurages se font vraiment uniquement avec des rubans circonférentiels pour mesurer les diamètres. Et ensuite, pour la hauteur, on utilise des appareils au laser parce qu'on ne peut pas monter dans un arbre pour mesurer la hauteur.
Oui.
Donc, avec un appareil laser, on est capable d'avoir la hauteur avec une très bonne précision. Donc, et une fois qu'on a ces éléments-là, on peut calculer la quantité qui est séquestrée. Mais ça, ce n'est pas la quantité qui est évitée. Ça, ce ne sont pas les émissions évitées. Les émissions évitées sont fonction de l'activité qu'on a. Donc, on crée des modèles en disant que la population, si on n'avait pas protégé la forêt, la population allait déboiser jusqu'à autant de pourcents par an. Et c'est cette quantité-là, par rapport à toute la quantité, tout le stock qu'on a dans la forêt, donc c'est cette quantité-là qu'on traduit en termes de crédit carbone. C'est ça qu'on appelle les crédits carbone. Ce ne sont pas tous les arbres qui sont dans la forêt, mais c'est uniquement les arbres qui sont en danger. Voilà, si je peux dire ça.
Voilà, les arbres qui sont en danger et on reçoit des compensations financières qui correspondent pour sauvegarder, n'est-ce pas, la forêt et éviter.
Exactement.
N'est-ce pas, cette pollution.
Exactement. Plusieurs marchés, aujourd'hui par exemple le marché de Londres, le marché de Toronto, ils exigent que, par exemple, les sociétés pétrolières puissent tamponner leur pollution, la pollution qui résulte de la production du pétrole, qui puissent les tamponner en achetant des crédits carbone. Donc, c'est dans ces marchés-là que nous allons, et c'est auprès de ces sociétés, de ces entreprises que nous allons proposer les nombres de crédits que nous avons disponibles.
Alors, quelles sont les activités que vous comptez réaliser en faveur des populations autochtones avec les crédits carbone que vous avez déjà obtenus?
Bon, d'abord, la première des choses, les communautés nous demandent toujours des projets d'infrastructure. Tout le monde demande une école.
Hôpitaux, centre de santé.
Voilà, dispensaire. Nous avons déjà construit de bonnes écoles dans la zone du projet. Nous allons construire deux autres écoles prochainement, dans les jours qui viennent. Et nous allons moderniser un certain nombre d'hôpitaux de référence qu'on a dans la région. Et nous allons aussi construire des petits dispensaires. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel. Le plus important, c'est le niveau de vie de la population. L'ennemi de la forêt, c'est la pauvreté. Parce que quand les gens sont pauvres, ils utilisent tous les moyens pour déboiser, essayer de trouver une solution à leurs problèmes. Donc nous devons résoudre le problème. C'est ce que nous avons commencé avec les communautés dans le Maïndombe. Intensifier l'agriculture. Montrer aux communautés que dans l'espace qu'il y a juste derrière la maison, ils peuvent intensifier l'agriculture, avoir une grande productivité et vendre ce produit-là et avoir beaucoup plus de moyens. C'est dans ces conditions-là que nous allons arriver à réduire la déforestation. Sinon, nous n'y arriverons
pas. Tant que cette population sera pauvre, elle va continuer à faire pression sur la forêt.
Absolument, on ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, on ne pourra jamais interdire à la population d'aller accéder aux ressources qui sont devant eux.
Voilà, donc on peut dire que ces populations autochtones sont les premiers bénéficiaires.
Il faut mettre les populations qui vivent à l'intérieur de la zone en priorité absolue. Et ça, c'est ce que nous voulons faire. Travailler avec eux, intensifier l'agriculture, intensifier la production. Vous savez que dans notre pays, on importe la nourriture pour plus de 2 milliards de dollars par an. Ce n'est pas normal. On peut produire chez nous ici, au lieu d'importer.
Oui.
Et les membres de communautés locales, ce sont les plus grands agents de production.
Bien. Jean-Robert Bouangoy, expert en environnement, merci. Nous vous disons merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.